On approche de la Pâque, on approche de la fête des pains sans levain. Et ça marque le début du grand plan de salut pour l'humanité. Et pour chacun de ceux qui sont appelés maintenant, ça marque une étape majeure, sinon la grande étape de leur vie. Alors, c'est une période solennelle, bien sûr, parce que c'est la mort du Christ. Et après, c'est notre responsabilité de vivre selon ses voies. C'est solennel, c'est important, mais en même temps, c'est réjouissant parce qu'on sait que tout ça nous a été donné et que Dieu nous promet tout ce dont nous avons besoin pour bien célébrer ces fêtes, pour les comprendre de plus en plus, pour y goûter et pour, ce faisant, nous préparer au monde qui vient. Allez à 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a toujours une certaine fébrilité dans l'air quand les fêtes du printemps arrivent. Et je l'ai vu tantôt dans plusieurs d'entre vous que j'ai rencontrés parce que vous m'avez parlé de votre préparation à la fête puis de la joie que vous éprouvez, des sermons que vous avez réentendus même en préparation à la fête puis des lectures que vous avez faites. Ça fait partie de la préparation puis il y a un enthousiasme qui se crée à travers ça lorsqu'on se prépare de cette façon-là. 1 Corinthiens 11, on va commencer à lire au verset 23. Ici, c'est la description que l'apôtre Paul donne de la Pâque que nous devons célébrer. Lui, il a appris du Christ et il nous enseigne ce que le Christ lui a enseigné, comme les apôtres ont enseigné et ont pratiqué ce que le Christ a enseigné et pratiqué lui-même. Alors, il dit ici au verset 23, Paul, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et là, il explique concernant la Pâque. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On sait que ce soir-là, lorsqu'il a pris la dernière Pâque sur terre avec ses apôtres, il a changé les symboles. Au lieu de tuer un petit agneau, il a dit, « Maintenant, vous allez prendre le pain qui représente mon corps qui va être offert pour vous. Et vous allez prendre du vin. Au lieu de prendre le sang du petit agneau et le mettre sur la porte, vous allez prendre un peu de vin. Et ça représente le sang que j'ai versé pour payer l'amende de vos fautes. » Alors, il avait l'autorité pour le faire, parce que c'est lui le Créateur, c'est lui le Dieu de l'univers. Alors, il leur a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il a pris la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Et la Bible nous dit qu'on célèbre la fête de la Pâque une fois par année, comme l'ancienne Pâque sous l'ancienne alliance était célébrée, le 14 de Nissan, entre les deux soirs. C'est pour ça que c'est marqué ici que le Christ, dans la nuit où il fut livré, a pris le pain et le vin. Donc, c'est entre les deux soirs, comme nous allons célébrer bientôt la Pâque, après le coucher du soleil. Car toutes les fois, verset 26, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce une chose qui est passée. On annonce que le Seigneur est mort. On réalise, nous, maintenant qui sommes appelés, que c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires du sang versé lorsqu'on se repent puis qu'on est lavé de nos fautes, mais que bientôt, après que le Christ sera revenu, ça sera montré à tous les êtres humains et eux aussi vont pouvoir être lavés de leurs fautes passées puis avoir l'aide de Dieu pour avancer, pour célébrer ces fêtes également. Alors, voilà ce que Paul leur a dit ici. Alors, nous, on doit faire ce que le Christ dit. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce qu'on va faire le soir de la Pâque. Vous savez, au baptême, chacun d'entre nous avons signé un contrat. Parce que le baptême, c'est un contrat, c'est une alliance. Dieu nous a montré qu'on avait transgressé ses lois. Il nous a montré qu'on avait causé chacun individuellement la mort de notre Créateur, mais qu'on pouvait être pardonné en acceptant de se repentir, et le repentir, c'est lui qui le donne aussi. Et à ce moment-là, on pouvait être lavé de nos fautes au moment du baptême, en prenant l'engagement de dire, oui, je comprends le sacrifice de Christ pour moi, je l'accepte pour moi, j'accepte qu'il soit mon sauveur personnel et je remercie Dieu qu'il me lave de toute ma vie passée, de toutes les erreurs que j'ai commises. commises. Les fautes que j'ai commises qui ont causé la mort de mon sauveur et qui ont causé tant de dommages autour, parce que j'ai fait du tort par les fautes que j'ai commises. J'ai fait du tort aux autres, puis j'ai fait du tort à moi-même. Alors, quand je réalise ça, mais que je réalise en même temps la bonté de Dieu qui me permet d'être lavé de tout ça, je demande le baptême. Et à ce moment-là, je suis plongé dans les eaux du baptême, je signe le contrat. Je dis à Dieu, oui, je veux t'appartenir et je veux maintenant faire les choses différemment de ce que je les faisais avant. Je veux vivre selon tes voies et non plus selon les voies du monde ou selon mes façons de faire. Je veux vivre selon ce que toi, tu me dis dans ta parole. Alors, je prends l'engagement, à ce moment-là, de marcher dans les voies de Dieu, de marcher dans une attitude de repentance, de changer, de devenir une autre personne. Si j'étais dur avant, de devenir doux. Si je volais avant, soit la réputation ou les choses ou quoi que ce soit, non seulement de ne plus voler, mais de donner. Et ainsi de suite, quand je regarde tous les 10 commandements, c'est ce que je dois faire. Alors, je m'engage à ça. Ça, c'est ce que vous êtes engagé à votre baptême, mais ce à quoi je me suis engagé à mon baptême. Plus que ça, parce que j'ai dit à Dieu à ce moment-là aussi, puis le ministre me l'a sûrement montré, c'est que lorsque Dieu va me faire voir d'autres fautes que même je n'ai pas vues au moment de mon baptême, il faudra que je sois disposé à les changer à ce moment-là. Il va me les pardonner si je les regrette, mais être disposé à les changer à ce moment-là, au fur et à mesure. Et ça va être un processus qui va durer tout au long de ma vie. Alors, au baptême, j'ai pris un engagement. L'engagement le plus important de toute ma vie. Parce que ça implique ma vie éternelle. Le deuxième engagement le plus important pour un être humain, c'est le mariage. C'est un engagement aussi envers quelqu'un d'autre, face à Dieu, pour le restant de notre vie. Mais l'engagement premier, c'est l'engagement envers Dieu. Alors, quand la Pâque arrive, c'est formidable et c'est encourageant parce que je sais que j'ai un commandement à respecter, celui de prendre la Pâque en tant que baptisé, parce que j'ai besoin de cette Pâque-là. Pas parce que je suis parfait encore, justement, parce que je ne suis pas encore parfait. J'ai encore besoin de revoir mon engagement, voir où j'ai été faible, voir où j'ai manqué, voir les nouveaux domaines que Dieu m'a montré à changer, voir aussi ceux que j'ai réussi à changer, examiner ça, et là, venir devant Dieu à la soirée de la Pâque et dire, « Père, je veux renouveler encore le contrat que j'ai signé définitivement avec toi. Je veux que tu saches que je veux continuer à t'appartenir, mais je veux que tu saches que je sais que je ne suis pas capable. Mais je te demande de m'aider. » Même avoir la Pâque dans toute sa splendeur, puis avoir les choses que j'ai à changer, mais à me donner la force d'y arriver. C'est pour ça qu'on célèbre la Pâque, en mémoire de celui qui est mort justement pour nous. Si on comprend la Pâque, si on a la compréhension de cette soirée merveilleuse, extraordinaire, qui est le point de départ de notre libération, on veut renouveler le contrat pour aller plus loin au cours de l'année qui vient. C'est ça le sens de voir la grandeur de la Pâque et de l'entrevoir encore d'avance avant de renouveler l'engagement au moment de la Pâque cette année. C'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vivre de tout cœur la Pâque et les pains sans levain ». Vivre de tout cœur la Pâque et les pains sans levain. En vivre avec enthousiasme et reconnaissance. Allons à Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, pas tellement loin de l'endroit où nous étions. Romains chapitre 6. Ici, on a une description, moi, que je trouve très forte et très puissante, une description du baptême, mais pas seulement du baptême, une description de notre baptême à chacun en rapport avec la Pâque et en rapport avec les pains sans levain. Romains 6, on va commencer au verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Si je mets ça en d'autres termes, Paul dit ici, et ça répondait, ça réfutait une fausse argumentation qu'il y avait à l'époque. Oh, on peut pécher, Dieu va nous pardonner, de toute façon. Mais déjà, à ce moment-là, si je pense comme ça, je commets un péché. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on reste dans nos fautes qui ont causé sa mort, mais il nous a sauvés de la mort, conséquence du péché, pour que nous cessions de pécher, pas pour nous replacer sous l'amende du péché. Alors, Paul explique clairement ici, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On ne peut pas vouloir continuer à pécher une fois qu'on comprend le sacrifice de Christ, ce que ça a coûté, puis une fois qu'on comprend la grandeur de ce à quoi on est appelé, la vie éternelle dans le monde à venir pour servir Dieu, servir les autres, être heureux parfaitement, et même aujourd'hui, même dans un monde difficile, avoir une paix d'esprit qui dépasse tout entendement humain, on ne peut pas rejeter ça. C'est la chose la plus merveilleuse qui ne peut pas nous arriver. Et quand quelqu'un est appelé par Dieu à ce moment-ci à faire partie de son petit troupeau, c'est une bénédiction incroyable, une grande responsabilité, oui, mais une bénédiction incroyable. Écoutez, on a déjà l'immense bonheur de savoir pourquoi l'être humain existe, où est-ce que l'histoire humaine nous conduit et comment Dieu va délivrer l'humanité bientôt. Et il nous donne à nous maintenant qui sommes baptisés d'avoir cette délivrance-là maintenant, d'être pardonné de nos fautes passées, d'être engendré dans la famille de Dieu, puis de rêver pouvoir entrer dans sa famille glorieuse, éternelle. Paul continue en disant, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce petit passage-là. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand vous avez été plongé dans les eaux du baptême, vous savez, c'est un baptême, comme la Bible nous dit, par immersion totale, c'est-à-dire qu'on est complètement placé sous l'eau pendant une fraction de seconde ou une ou deux secondes. Et à ce moment-là, Dieu efface toutes nos transgressions passées, comme c'est indiqué dans la Bible. Mais lorsqu'on passe par les eaux de ce tombeau liquide, c'est comme si on était plongé dans le sang du Christ qui nous lave totalement. Et c'est pour ça qu'on doit être plongé totalement dans les eaux. Mais nous avons été baptisés en la mort du Christ. Ça donne à réfléchir, puis ça fait apprécier ce qu'on a vécu au moment de notre baptême. C'était beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer en tant qu'être humain. On dirait qu'à chaque année, avez-vous remarqué, on découvre des dimensions nouvelles à la grandeur du sacrifice du Christ, puis à la grandeur de l'appel de Dieu. Paul continue en disant, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et ça, c'est un instant béni. Quand la personne sort des eaux du baptême, elle est au jour 1 de sa vie spirituelle. C'est le début de sa vie éternelle. Tout ce qui était avant de mauvais vient d'être lavé et Dieu dit, je ne m'en souviens même plus. Il décide de ne plus s'en souvenir. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous vos transgressions. Alors, la personne qui sort de l'eau, c'est une nouvelle personne. Elle a été lavée de son ancienne vie. Complètement. Et là commence une vie tout à fait nouvelle. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, ça c'est le pécheur que j'étais. Lui a été lavé à ce moment-là, totalement. Et il est resté, pour ainsi dire, dans le tombeau liquide. Et c'est un être nouveau qui sort. Alors il mentionne bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 12. Et là, à la Pâque, au fait d'avoir été lavé par le sang du Christ dans la tombe liquide, quand on ressort de cette tombe-là liquide en tant que nouvel individu, il nous est dit ceci, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris avant d'aller dans les eaux du baptême. Là, j'ai dit à Dieu, avec ton aide, je vais me battre pour éliminer de ma vie tout ce qui n'est pas selon tes voies et selon ta loi et pour mettre à la place le bien, le bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur. Alors, voyez-vous, on a la Pâque et on a la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain qui représente le fait que nous, on essaie de vivre sans péché. On n'y arrive pas parfaitement, mais il faut être en train de le faire. Il faut être en train de le faire. Et honnêtement, devant Dieu. Verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Et c'est ce que tous les êtres humains font avant de connaître le vrai Dieu. Même en pensant honorer le vrai Dieu par des cultes qui ne sont pas les cultes que Dieu dit. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on honore le vrai Dieu, au contraire. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant maintenant, l'homme nouveau là, ou la femme nouvelle qui sort des eaux du baptême, comme étant vivant maintenant, de mort que vous étiez, maintenant offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est une autre façon imagée de dire maintenant, là, vivez comme Dieu vous dit de vivre. Appliquez-vous à ça. Demandez mon aide, je vais vous la donner et je vais vous amener à terme, si vous n'abandonnez pas. Alors, comment se préparer à prendre individuellement la Pâque qui vient? Je vais vous donner deux petits points simplement. Je sais que vous avez déjà commencé à plusieurs aspects à le faire, dans plusieurs aspects. Mais c'est bon qu'on voit d'autres possibilités aussi. Une des bonnes façons de se préparer à prendre la Pâque, et je dis individuellement parce que c'est individuellement que vous allez renouveler le contrat. On va être ensemble dans la même salle, d'accord? Mais c'est individuellement qu'on va dire à Dieu, « Oui, je veux t'appartenir encore. Avec mes frères et mes sœurs qui sont ici, je veux t'appartenir, je veux finir ton œuvre, transforme-moi. » Alors, une des façons de se préparer à prendre la Pâque, c'est un peu comme j'ai commencé à le faire avec vous aujourd'hui, c'est en regardant les différents aspects du sacrifice de Christ. Pour y réfléchir, pour le comprendre un peu plus. Et si on le comprend un peu plus, on va l'apprécier un peu plus aussi. Et si on l'apprécie plus, on sera davantage reconnaissant. Et là, on va se présenter le soir de la Pâque avec le cœur joyeux, en disant à Dieu, je veux t'appartenir et je viens devant toi humblement en te disant merci que tu m'aies gardé jusqu'à aujourd'hui et que tu me promettes de m'aider si moi je ne t'abandonne pas. Et je sais que je peux compter sur ta parole comme sur le soleil qui se lève demain matin parce que c'est même toi qui as fait que le soleil va se lever demain matin. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Une deuxième façon de se préparer aussi, j'en ai déjà parlé et ça revient avant chaque Pâque et chaque pain sans levain, c'est de s'examiner honnêtement. S'examiner honnêtement et de façon positive. Est-ce que, une des questions qu'on peut se demander, par exemple, en s'examinant, est-ce que, depuis 5 ans, par exemple, que je suis dans l'Église, est-ce que j'ai vraiment changé? Depuis 2 ans, est-ce que j'ai vraiment changé? Depuis 1 an? Depuis 6 mois? Est-ce que j'ai changé des choses? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que quand j'ai vu que j'avais des choses à changer, que j'ai demandé à Dieu de m'aider, puis que j'ai commencé à faire des choses pour y arriver. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que maintenant je ressemble un peu plus à Christ? Parce que je dois de plus en plus développer la stature de mon grand frère, le premier-né de la famille divine. C'est ce que la Bible dit. Le Christ est le premier-né de la famille divine. Alors, est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis davantage comme le Christ? Vous savez, en approchant la Pâque, puis les pains sans levain, même au cours des pains sans levain, c'est une période privilégiée pour s'évaluer et je dirais pour corriger le tir. Il y a des choses qu'on a tous à corriger, moi le premier. Il ne faut pas que ça soit décourageant, mais il faut être encouragé par le fait que je vois encore des choses à changer. Si je n'en voyais plus, ça serait dangereux. Ça serait encore plus dangereux. Parce que c'est comme la Bible dit, là, celui qui pense être debout, qui prend garde de tomber, puis celui qui dit qu'il n'y a pas rien à changer, attention, allumons toutes les lumières rouges puis toutes les sirènes possibles, parce que là, la personne est en train de s'endormir. Parce que tant qu'on sera dans la chair humaine, on sera imparfait, on aura des choses à améliorer et à changer. Alors, si Dieu me donne de voir des choses que j'ai à changer, c'est pas pour me décourager. Au contraire, c'est pour me dire, écoute, il faut que tu ailles plus loin. Tu as un bon bout de chemin de fait, là, mais il faut maintenant aller plus loin parce qu'il faut se rendre au bout. Moi, je vais te rendre au bout. Et pour que tu puisses arriver, il faut que je te montre les autres choses que tu as à changer. Alors, vous, ce n'est pas négatif du tout. Au contraire, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne de voir nos fautes et nos faiblesses. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, le verset 6, ça s'applique exactement à la période où nous sommes. Un examen positif de nous-mêmes. Paul écrit aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même. » Et il précise une chose, « Examinez-vous vous-même pourquoi? » Pour savoir si vous êtes dans la foi. Bon, si on ne fait pas attention aux mots, ça va. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que l'examen de soi va avec la question de la foi? Ici, il y a une clé pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que Paul dit après, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés ou que vous ne soyez de faux chrétiens. Ça, je dis, si on ne voit pas de choses à changer en nous, là, il faut s'inquiéter. Alors, c'est 2 Corinthiens 13 et le verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que le Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé? Alors, comment ça va ensemble s'examiner puis avoir la foi? Si vous êtes en train d'agir pour changer des choses, vous avez la foi. Parce que si on croit Dieu suffisamment, on va faire ce que Dieu dit. Et Dieu dit, changez. Je ne veux pas que vous restiez dans votre malheur, dans vos misères. Je vous ai appelé pour vous transformer complètement. Alors, si vous avez à cœur de changer, que vous êtes en train de changer des choses, vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas en train de changer de choses et que vous vous sentez confortable, je dirais, de réchauffer un bain d'église, ou d'aller aux fêtes, ou de faire certaines choses comme ça, attention. Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Parce que croire, c'est agir. Et croire, c'est agir selon ce que Dieu nous dit d'agir. Si je ne suis pas en train de le faire, il n'est peut-être pas trop tard, mais il est peut-être grand temps que je me réveille et que je me pousse à passer à l'action en disant, Dieu, aide-moi, j'ai ralenti ma course, au cours de l'année peut-être, ou au cours des deux dernières années, mais il faut maintenant que je me mette en branle et que j'avance et que je me mette à changer tout ce que j'ai à changer. Peut-être que j'ai gardé dans ma vie ce qu'on peut appeler des jardins secrets, où on garde des choses qu'on sait qu'on a pas le droit de faire, mais c'est des choses qui plaisent à notre nature humaine charnelle, et on dit, bon, ben c'est pas si important que ça, après tout, aux yeux de Dieu, Dieu va comprendre une chose, c'est que vous ne voulez pas changer. Et ça, c'est dangereux. Parce que, vous savez, Dieu veut qu'on lui appartienne de tout cœur. Hein? Ça, j'ai donné mon sermon, « Vive la Pâque et les pains sans levain de tout cœur ». Ce n'est pas à demi et ce n'est pas en faisant des compromis. Si on fait des compromis avec Dieu et si on garde des choses dans notre vie qu'on sait qu'on ne doit pas garder et qu'on ne veut pas les changer, à ce moment-là, on est en train de trahir le contrat qu'on a signé, si nous sommes baptisés. Et ça, c'est dangereux. On doit être loyal, ouvert envers Dieu. Il y a des choses, c'est vrai, qui sont plus difficiles que d'autres à changer. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est des choses qu'on garde à côté et qu'on aime mieux pas regarder, auxquelles on aime mieux pas penser, où on dit, c'est pas si pire, je ne veux pas accorder, c'est pas tellement grave, je ne veux pas accorder trop d'importance à ça, je verrai plus tard. Attention. Attention parce que l'appel et le salut aussi, c'est comme un train, hein? Une fois qu'il est passé, il est passé. Et le temps se fait de plus en plus court. Et chaque année, lorsque vient le temps de la Pâque, c'est encore plus important, je dirais, que la Pâque précédente. Parce qu'on est plus proche du retour de Christ. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. Alors, croire, c'est agir. Alors, je peux savoir si j'ai la foi, si je suis en train de m'appliquer à agir en toute circonstances pour plaire à Dieu. Bien sûr, quand on va s'examiner, on va voir des manques, on va voir des fautes, des faiblesses, mais comme j'ai mentionné, ce n'est pas un exercice pour nous décourager, mais c'est un exercice pour pouvoir croître, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre. Et rappelez-vous ce que dit Apocalypse 2 et 3, « À ceux qui vaincront, je donnerai autorité sur les nations. » Et Matthieu 24 dit, « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. » Persévérer jusqu'à la fin, là, c'est pas simplement attendre que le Christ revienne. Parce que ça, c'est un entourloupette de l'esprit humain ou de la nature charnelle qui ne veut pas changer. Si je me dis, je vais à l'église, je paye mes dîmes, je vais à la fête, je suis gentil avec les gens, j'essaie de changer des choses, mais que je ne persévère pas dans changer tout ce que j'ai à changer, honnêtement, avec Dieu, je suis à risque. Alors, mais Dieu m'encourage, il montre mes fautes pour que je puisse persévérer aussi dans le repentir. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas de persévérer dans la présence ou dans l'accomplissement de certaines choses. Mais c'est une persévérance dans le repentir. Et cette persévérance-là va avoir lieu jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ sur la terre aussi, parce qu'on ne sera pas parfait au moment du retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va devoir nous rendre parfaits. Mais il va falloir être dans cette direction-là pour qu'il nous rende parfaits, pas avec un pied ailleurs. Et en même temps, en faisant cet examen-là, écoutez, il faut voir la page où c'est négatif, dans le sens que j'ai ça à changer. Ça, je me suis amélioré, mais je pourrais faire mieux. On fait ce bilan-là de la page négative. Qu'est-ce que j'ai à changer, à améliorer? Mais regarde, mettez une autre page à côté. Mettez la page de ce que vous avez changé à date. C'est encourageant, ça. Puis on a besoin de ça. Parce que des fois, on regarde juste dans la page négative. Mais il faut regarder dans la page positive. Qu'est-ce que vous avez changé depuis que Dieu vous a amené à l'Église? Notez des choses. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez changé? Là, vous pouvez dire, bien, j'ai ce bout de chemin-là de fait. C'est réel, c'est là. Et ça nous encourage. Et je pense que Dieu veut qu'on le regarde comme ça. Le Christ encourageait ses disciples de cette façon-là aussi. Hein? Il disait, regardez, telle chose, ça va bien, là, mais il y a telle autre affaire, il faut faire attention. Et il dit ça aux sept églises aussi. Hein? Il commence toujours par leur dire, vous avez réussi ça, vous avez réussi tel point, mais j'ai telle chose contre toi, tu as manqué sur tel point-là. Fais attention à ça. Alors, c'est la même chose pour nous. On doit prendre un petit peu ce scénario-là quand vient le temps de s'examiner pour voir, oui, on a des choses à changer, mais oui, on a des choses qu'on a changées. Pourquoi? Ça nous montre qu'on est en marche. Et quand on est encore en marche, on peut se présenter à la Pâque en disant « Je n'ai pas été parfait, j'ai besoin de ta miséricorde, mais je sais que tu vas me l'accorder, parce que tu m'as accordé de me repentir, puis je le veux encore. Fais-le encore. » Et là, on peut prendre la Pâque avec le cœur joyeux, le cœur paisible, le cœur heureux, et ça va être une nouvelle étape qui s'en vient. Romains, chapitre... J'avais mentionné 2 Pierre, chapitre 1. Regardez les versets 3 et 4. Les encouragements extraordinaires qui nous sont donnés ici. À ceux qui sont appelés, à ceux qui passent par les eaux du baptême et qui reçoivent le Saint-Esprit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est beaucoup, cela. Dieu est en train de nous dire qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on parvienne au but. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on parvienne au but. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et c'est vrai, le Christ est venu, il nous a fait connaître le Père qui nous a attirés à Jésus-Christ. Et on découvre ça. Je parlais de ça avec des personnes nouvelles tantôt qui admirent le fait que Dieu leur révèle autant de belles choses parce qu'ils commencent à comprendre son plan dans toutes sortes de dimensions. Et c'est tellement encourageant. Et c'est ça qu'il dit ici. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure, regardez bien, c'est une assurance de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment on devient participant de la nature divine? En étant d'abord lavé de nos fautes dans les eaux du baptême, ensuite, par l'Esprit de Dieu, en marchant dans ses voies, on développe la nature divine à la place de notre nature humaine. Et pour y arriver, on fait quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde, toutes les voies mauvaises du monde, par la convoitise. Alors voici les promesses que Dieu nous fait de nous emmener à terme. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5 maintenant. Vous savez, chacun de nous, on vient de passablement loin. Quand Dieu nous appelle, là, il vient nous chercher de très, très loin. Parce qu'on était, non seulement on était loin de Dieu, mais on était ses adversaires. On était ses ennemis. C'est pas peu dire, là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas votre ami. Mais c'est encore pire s'il est votre ennemi. OK? Parce qu'il vous accuse, il vous en veut, il vous critique. Ça, c'est nous avant. C'est tous les êtres humains avant de connaître le vrai Dieu. Mais le gouverneur de l'univers a décidé. Il vous a donné sa patience. Il vous a donné sa miséricorde. Mais on venait de très loin. Alors, Romains chapitre 5, on va commencer au verset 6, si vous permettez. Romains 5 et le verset 6. Encore là, c'est un très beau passage, vraiment encourageant. Car lorsque nous étions sans force, avant d'avoir l'Esprit de Dieu, on n'avait aucune force venant de Dieu, sinon juste nos forces humaines, l'intelligence humaine normale, qui est rien à côté de ce qu'est Dieu. Alors, il dit, lorsque nous étions sans force sur le plan spirituel, Christ, au temps marqué, parce que ça avait été décidé par lui et par son Père, est mort pour des impies. Le terme impie, c'est pas un terme courant, ça veut dire des pécheurs, des transgresseurs de la loi. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait pour un homme de bien, peut-être. Mais Dieu, verset 8, prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. OK? Avant qu'il nous appelle, alors qu'on était pécheurs, le Christ est mort pour nous. Puis pourtant, c'est nous autres qui avons causé sa mort. Et il l'a voulu comme ça pour nous sauver. Quand on le regarde comme ça, on voit plus la grandeur du sacrifice de Christ. Serons-nous sauvés? À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère qui s'en vient? Alors, on a été rendu juste par son sang, parce que toutes les fautes ont été effacées. Et pour Dieu, la personne qui est sortie des eaux du baptême, c'est une personne qui n'avait jamais péché. Elle est juste, était juste. C'est ça. C'était la première journée de sa vie spirituelle. Bien sûr, Dieu savait que la personne n'allait pas rester comme ça, parce que c'est impossible. On est encore humain dans la chair et on a encore des faiblesses. Mais si la personne se met en frais de continuer à vouloir obéir à Dieu, puis à vaincre sa nature humaine, Satan, puis vaincre le monde de Satan, à ce moment-là, la personne est dans la croissance spirituelle, est en train de se préparer pour naître dans la famille de Dieu. Dieu savait qu'on a ce combat-là après qu'on est baptisé. Et ça va durer jusqu'au moment du retour de Christ. La vie est dans le sang, comme dit la Bible. La vie est dans le sang. Je ne vous donne pas le verset, mais vous pourrez voir vous-même. Et c'est pour ça que le Christ a dû verser son sang, sa vie. La vie est dans le sang. A dû verser son sang pour payer l'amende des fautes de la vie de tous les êtres humains. Parce que sa vie, à lui, avait plus d'importance. En tant que créateur, celui qui a donné l'existence à toute chose et à tout être humain, sa vie avait plus d'importance que la vie de tous les êtres humains qui ont vécu dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, c'est pour ça que lui, en s'offrant, il pouvait payer l'amende de nos fautes. Alors, il a versé son sang pour qu'on puisse être lavé de nos fautes, pardonné, puis engendré par le Saint-Esprit, puis à ce moment-là, faire partie de la famille de Dieu, embryonnaire. Pourtant, nous qui sommes rien, nous qui sommes coupables. Allons dans Psaume 90. Psaume 90, s'il vous plaît. Ici, c'est Moïse qui écrit. En fait, c'est une prière. C'est intéressant parce que Moïse décrit ce que de plus en plus de gens parmi nous réalisent, la brièveté de la vie humaine. Quand on a 12 ans, 15 ans, on a l'impression que, oh, on vieillira jamais. 20 ans, c'est si loin l'âge de 20 ans. Et si je peux avoir 20 ans? Bon, OK, 20 ans arrive, 30 ans, 40, 50, l'horloge continue. Et on réalise à un moment donné la brièveté de la vie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on s'améliore dans cette réalisation-là, chacun d'entre nous, parce que chaque année, on vieillit d'une année. Alors, Moïse en parle ici, mais dans le sens d'avoir la crainte de l'Éternel, autrement dit, d'avoir les bonnes priorités par rapport à cette vie-là qui est temporaire, tellement temporaire. Il y a quelque chose de permanent qui s'en vient, et c'est ça qu'on veut attendre et partager avec le Christ. Il nous l'offre. Alors, Moïse, ici, il parle à Dieu, il dit, « Tu mets devant toi nos iniquités ou nos péchés à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Alors, pour Dieu, là, il n'y a rien de caché. On peut penser que même nos pensées les plus secrètes lui sont inconnues, mais elles lui sont connues. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, nos intentions, nos motifs, lui les connaît. Alors, on ne peut rien cacher de lui. On ne peut pas penser cacher des choses de Dieu. D'ailleurs, il ne faut pas faire ça non plus. Il faut avoir l'attitude contraire, dire, comme David disait, « Dieu, montre-moi les fautes que j'ignore. » David, il demandait même le contraire. « Montre-moi les fautes que je ne vois pas être une faute, là, parce que je veux changer puis je veux t'appartenir comme il faut. » Alors, tu mets devant toi nos iniquités et même nos fautes cachées te sont connues. Et c'est cette attitude-là que Dieu aime voir dans ses enfants. Ça, c'est une attitude de repentir. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a manqué, mais on dit à Dieu, je veux changer puis je veux aller plus loin, aide-moi, la seule force que je peux avoir pour y arriver, c'est toi. Et parfois, il faut insister, 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 et là, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, aura la vie éternelle. David continue, pas David, mais Moïse continue en disant, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Et vous mettez une note de musique au piano, vous faites un coup sur une note, ça a un son qui dure un petit peu, d'un coup ça s'efface tout de suite. Et il dit, « Notre vie est semblable à ça. » C'est vrai, c'est vrai. Quand vous regardez en arrière, quel que soit votre âge, le nombre d'années que vous avez vécu, c'est comme un songe, hein? C'est comme un son. Hier, j'avais 10 ans, hier, j'avais 5 ans, ou 20 ans, puis c'est tout passé, déjà. C'est comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Je voyais un homme très âgé dans la rue avec sa canne, puis surveillait la glace, puis avançait à peine. Et c'est ce que la Bible dit. L'orgueil que l'être humain tire de son vieil âge, lorsqu'il atteint ce vieil âge-là, ce n'est que peine et misère. Regardez verset 11 maintenant. « Qui te rend garde à la force de ta colère? » Et on sait que bientôt cette colère-là, la colère de l'agneau, va se manifester. « À ton courroux, selon la crainte qui t'est due. » Verset 12, et ça, on doit le demander au temps des fêtes et durant l'année aussi. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, à savoir que je ne suis rien, que je ne peux rien, que ma vie est courte, que chaque jour qui m'est donné, je dois l'utiliser pour être proche de toi, pour être fort et courageux lorsque les événements vont être plus difficiles encore, et pour être prêt lorsque le Christ reviendra. » Parce qu'il dit bien, hein, « Veillez et priez pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ça, c'est au moment de son retour. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions, que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire chercher à faire tout ce que Dieu nous dit. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, on va aller au chapitre 4 maintenant. Vous savez, c'est marqué dans la Bible à différents endroits, c'est encourageant. Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui sont parfaits? Non. À ceux qui veulent le devenir. Parce que s'il donnait à ceux qui sont parfaits, il ne donnerait à personne. C'est pas compliqué. Alors, il donne son Saint-Esprit à ceux qui veulent devenir parfaits. Mais s'ils veulent devenir parfaits, c'est parce qu'ils essaient de lui obéir. En le suppliant de les aider, puis en le suppliant de les pardonner lorsqu'il leur arrive de manquer leur coup par faiblesse. OK? Alors, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, donc qui graduellement abandonnent leur voie pour les remplacer par les voies de Dieu. Et ça, c'est le chemin de la fête des pains sans levain. C'est le chemin du repentir. Et ça se fait tout au long de l'année, pas juste au moment de la fête des pains sans levain. Et ça se fait tout au long de notre vie aussi. Et c'est un exercice qui ne doit pas être négatif, mais qu'on doit voir comme important pour rester proche de Dieu. Puis demander son aide. 2 Corinthiens 4 et le verset 16. Ici, on parle de l'homme nouveau qui est sorti des eaux du baptême. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, la carapace physique humaine, se détruit, vieillit, change, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cette personne nouvelle que Dieu a appelée, et qui a passé par les eaux du baptême, qui a vécu le jour 1 de sa vie éternelle, le début de sa vie spirituelle complète, intense, en marche vers la naissance spirituelle au moment du retour de Christ, cette personne-là, c'est la nouvelle personne intérieure. Même si notre être extérieur change, même si les circonstances autour peuvent parfois devenir très négatives ou inquiétantes, on doit mettre notre confiance en Dieu et il va prendre soin de nous et il va nous amener à terme si on continue à se repentir chaque jour. Ça, c'est l'homme intérieur là, qui se nourrit chaque jour du pain du ciel, de la parole de Dieu. Ça, c'est le pain du ciel en écrit. C'est le Christ en écrit, c'est sa pensée, son plan, ses actions, les commandements qu'il nous donne. Si on s'en nourrit chaque jour pour en vivre et devenir de plus en plus comme le Christ. Alors, chaque jour de notre vie, on doit s'appliquer en tant que chrétien à vivre de plus en plus contre le Christ. Puis on a la lutte à faire contre les trois ennemis. J'en mettais plus qu'il y en avait, là. Mais il y en a peut-être plus aussi. Trois ennemis majeurs. C'est qu'on a Satan, bien sûr, l'adversaire, qui rôde comme un lion rugissant, comme la Bible dit, pour essayer de faire tomber les gens, les amener à penser autrement, à se décourager, à ne plus être là, à manquer leur coup. Satan travaille là-dessus. Il y a la société autour de nous avec toutes ses pressions, toutes ses attirances mauvaises. Et il y a aussi notre nature humaine qui fait un gros travail sur nous. On doit la combattre aussi et maîtriser nos impulsions ou nos pensées mauvaises ou enfin ou nos actions mauvaises. Et ça, c'est chaque jour de notre vie, petit à petit, jour après jour. Après qu'une journée est finie, on demande à Dieu sa miséricorde, on demande son aide, on se remet dans ses mains et le lendemain, on recommence, on continue. C'est ça, la persévérance. Et quand viennent les fêtes, on se réjouit parce que ça nous permet de renouveler l'engagement à marcher selon ses voies. Puis on peut lui rappeler à ce moment-là ses promesses. Dire, Dieu t'a promis de nous emmener à terme si on reste fidèle. T'as dit que tu nous abandonnerais jamais. T'as dit que si on se repent, ça nous est donné par ta bonté. Manifeste ta bonté envers moi pour que je continue à me repentir, comme je dois me repentir, pour que ça te plaise. Je sais que je ne suis pas parfait en rien de ça, mais je veux aller vers la perfection. Écoutez, on a un exemple, Romains 7. On a l'exemple de Paul par rapport à ça. Ça peut nous encourager, nous les êtres humains, qui sommes encore imparfaits, même si on est en marche pour obéir de mieux en mieux à Dieu et pour lui plaire. Vous avez ici l'exemple d'un ministre de Dieu, pas seulement un ministre de Dieu, mais un évangéliste, un apôtre, Paul. OK? Des fois, on dit, ah, ces gens-là, ils ont une quantité particulière de force, pour eux autres, c'est facile. Mais rappelez-vous comment Paul se décrit dans le combat de la repentance que je vous dis. Il y avait les mêmes combats que vous et moi. Romains 7, verset 12. Regardez comment il parle de la loi de Dieu. La loi de Dieu est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc, il dit, la loi de Dieu, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais regardez le verset 18. Ce qui est bon, par contre, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Parce que dans sa chair, il y a l'esprit humain charnel qui attire à vouloir faire des choses contraires à la loi de Dieu. OK? À manquer de maîtrise de soi, à critiquer les autres, à faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Ça, c'est dans nous autres, ça, là. Vous le vivez, puis je le vis aussi. Comment de fois ça arrive qu'il se présente une situation, quelqu'un nous lance quelque chose qui nous insulte ou qui nous déplaît, puis des fois, la première chose qu'on va faire, c'est de retourner la balle dans sa direction. Alors que la Bible nous dit, non, ne réagissez pas de cette façon-là. Alors, on a ça dans nous autres. Et il faut d'abord en prendre conscience, puis après, on dit, bien, quand ça va se représenter, il faut que j'apprenne. Première réaction, puis ça presse, rien faire, puis rien dire. Puis des fois, laisser une nuit passer ou une journée avant de retourner vers la personne et de s'expliquer s'il y a lieu. Mais de ne pas réagir tout de suite, c'est une clé que la Bible nous donne. Alors, Paul avait ces mêmes combats-là ici. Il dit, ce qui est bon, je le sais, ça habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Mais le pouvoir, il vient de Dieu. Mais la lutte est à nous autres. Mais le pouvoir, il faut le demander et le redemander et le redemander. Et parfois, on oublie ça aussi. On essaie de faire les combats nous autres-mêmes au lieu de redemander à Dieu. Il veut qu'on aille vers lui. Verset 21. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je réagis trop vite, je dis des choses qui dépassent ma pensée, je fais telle chose. Bon, Paul avait ces combats-là. Pourtant, un serviteur de Dieu, apôtre, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On vient de voir l'homme intérieur, là. Ça, c'est l'homme nouveau qui est au baptême et tout ça. Il dit, d'après cet homme-là qui est en moi, l'homme nouveau que Dieu a mis, dans lequel Dieu a mis son Saint-Esprit, j'aime sa loi. Puis je sais que c'est le bon chemin. Puis je sais que c'est le chemin du bonheur pour les autres, pour rendre hommage à Dieu, pour honorer mon Dieu. Verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension ou de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, ça vous amène au verset préféré de M. Mérédith, le Galates 2:20, qui dit, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et c'est le Christ qui combat les combats que j'ai à combattre. Et ça aussi, on doit le réclamer auprès du Christ, de dire, combat en moi, et aide-moi à collaborer avec toi pour travailler à vaincre. C'est seulement par le Christ en nous qu'on peut arriver à la victoire sur nos faiblesses humaines. Alors, je fais un petit point ici. On doit se repentir de nos transgressions, c'est vrai. Mais plus que ça. Et parfois, ça surprend les gens lorsqu'on les prépare au baptême et qu'on leur explique cet aspect-là. Des fois, ils ne l'ont pas vu. On doit se repentir non seulement des choses qu'on a faites de mal ou pas faites de bien, mais on doit se repentir de ce que nous sommes. On doit se repentir de ce que nous sommes. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'on a un cœur tortueux par-dessus tout? Est-ce que la Bible ne dit pas que notre nature c'est nous-mêmes ça, elle est mauvaise, qu'elle cherche son propre intérêt, qu'elle est tordue? Alors c'est nous ça, et c'est cette nature-là qu'on doit enlever. Alors je dois me repentir non seulement des choses mauvaises que j'ai faites ou des choses bonnes que je n'ai pas faites, mais je dois me repentir de ce que je suis et demander pardon à Dieu encore de ce que je suis pour qu'il me transforme. Il faut que j'aille jusque-là aussi. Je dois continuer, autrement dit, à reconnaître que j'ai encore, malheureusement, et c'est mon cas aussi grandement, que j'ai encore cette nature humaine-là, que je suis encore dans le processus de changement. M. Armstrong, serviteur de Dieu, homme qui a donné sa vie, pour ainsi dire, pour l'œuvre, pour Dieu, si vous allez dans ses écrits, dans ses mémoires, il dit, je suis un tas de rebuts. Ailleurs, il dit, je suis un âne égoïste. Ça, c'est de reconnaître notre nature humaine. Il est allé loin de même marquer ça dans sa biographie et tout ça. C'est qu'à un moment donné, on doit arriver au point par rapport à Dieu de dire, je suis rien, je suis coupable de la mort de ton fils et je suis mauvais par nature. Il faut que tu me changes totalement. Parce que vous savez, il n'y a pas personne qui a été appelé par Dieu qui peut dire, et si une personne le pense, elle doit se repentir de ça, qui peut dire, Dieu m'a appelé parce que j'étais bon. Personne. Et si des fois le cœur humain tortueux nous amène à penser comme ça, c'est parce que j'avais certains talents ou c'est parce que je faisais certaines bonnes choses. Non, Dieu ne nous a pas appelés parce qu'on était bon. Dieu nous a appelés parce qu'on était des pécheurs, qu'on était soumis à la mort éternelle et qu'on avait besoin de son sacrifice et qu'on avait besoin de comprendre non seulement qu'on avait transgressé les lois, mais qu'on était et qu'on est des gens mauvais de nature. Voyez-vous jusqu'à quel point ça va? Ça va très loin. Mais il faut, dans notre cheminement, en arriver tranquillement à cette constatation-là. Et ce n'est pas pour, encore là, se décourager, mais c'est pour se voir tel que Dieu nous voit. Quand Dieu nous dit « Humiliez-vous devant moi et je vous élèverai au temps convenable », autrement dit, reconnaissez que vous êtes rien, que vous êtes coupable, mais ce faisant, je vais vous laver et je vais vous donner la force qu'il faut pour entrer dans ma famille et devenir des êtres capables de ne plus jamais pécher. Être spirituel, ayant la vie éternelle avec le Christ pour aider les êtres humains à partir du retour de Christ. Alors, le vrai repentir, c'est ça que ça veut dire. Le vrai repentir, selon Dieu, c'est de réaliser que j'ai transgressé ses lois, que je suis intrinsèquement en moi-même mauvais par nature, que j'ai causé la mort de mon Créateur et que j'ai fait du tort aux autres et à moi-même en transgressant les lois. Et regretter profondément ça, de tout cœur désirer être purifié, et c'est possible, être pardonné, et c'est possible, et de désirer de tout cœur me soumettre par sa force à Dieu pour être transformé et accomplir toute sa volonté. Si on atteint ce point-là, et ça aussi c'est un processus, C'est qu'à ce moment-là, on en arrive à être capable de dire, mon cœur est vivement touché parce que je réalise tout ce que Dieu a fait pour moi, et tout ce qu'il est en train de faire pour moi, et tout ce qu'il a promis de continuer à faire pour moi. On réagit un peu comme ceux qui ont entendu le premier sermon que Pierre a fait le jour de la Pentecôte quand il leur a dit, « Vous êtes responsables de la mort du Christ, de celui qui est venu pour vous sauver. » Et à ce moment-là, beaucoup ont dit, on a le cœur touché, on comprend, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Un, repentez-vous, soyez baptisés, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit par lequel vous allez pouvoir ensuite être transformés. Et nous, je dirais qu'il faut revoir cette approche-là pour quand on approche de la Pâque aussi, un peu avoir encore le cœur touché. C'est important, et même beaucoup. En comprenant la grandeur, l'envergure du sacrifice de Christ, tout ce que ça a été, tout ce que ça représente et toutes les promesses magnifiques qui sont attachées à l'appel de Dieu pour nous amener à bon terme. C'est bon de repasser tout ça avant la Pâque. De se laisser, je dirais, encore toucher en réalisant qu'au lieu de nous laisser mourir à jamais, Dieu a tout fait pour que nous soyons pardonnés et il est en train de tout faire pour nous amener au jour de notre naissance dans sa famille, au moment du retour de Christ, et qu'il m'a laissé vivre. Je n'aurais pas pu y reprocher de me laisser mourir. J'étais responsable. Il m'a laissé vivre. Il m'a rendu conscient de mes péchés, et encore, il continue à le faire, à m'aider à comprendre davantage. Il m'a donné la repentance, parce que ça vient de lui, et je lui en demande encore pour continuer à me repentir. Et au moment du baptême, il m'a totalement purifié de toute ma vie passée. Et quand il m'arrive encore par faiblesse de manquer mon coup, il me pardonne encore. Parce que, comme Jean dit, celui qui dit qu'il n'y a pas de péché est un menteur. Mais si nous confessons à Dieu nos fautes et que nous marchons dans la lumière, pas dans les ténèbres en gardant des choses secrètes dans notre vie, mais qu'on marche dans la lumière, il dit, il est fidèle pour nous pardonner. Et c'est pour ça qu'on peut renouveler notre engagement chaque année. Et Dieu m'a donné son Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, sa puissance, pour que je sois un vainqueur par le Christ en moi. Alors, Dieu aurait pu vous laisser mourir à jamais, et Dieu aurait pu me laisser mourir à jamais. Il avait tous les droits de le faire, et on n'avait rien à dire. Quand on dit que Dieu nous a tout donné, là, c'est vrai. Dieu nous a vraiment tout donné. Et plus on avance, remarquez bien, plus on avance dans la vie chrétienne, et je remarque que ça se passe cette année, parce que certains d'entre vous, par vos remarques, je vois que Dieu vous donne d'aller plus loin dans l'appréciation des fêtes et du sacrifice de Christ. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on réalise en même temps la gravité de nos fautes, mais en même temps, plus on réalise la grandeur et la beauté du sacrifice de Christ. Ça va ensemble. Ça se tient à quel point ce grand sacrifice-là nous a libérés et nous libère. Et ce faisant, ce qui se passe, c'est qu'on atteint d'autres niveaux de repentance. On atteint d'autres niveaux de repentance. Soyez pas surpris que vous compreniez d'autres choses. Si vous vous rapprochez de Dieu, peut-être vous avez jeûné ou peut-être vous allez jeûner d'ici la Pâque. Si vous vous approchez de Dieu avec un cœur honnête, ouvert, en lui demandant de vous montrer vos fautes, de vous donner la force, de vous donner de renouveler le contrat avec une ardeur nouvelle, puis de vous donner que l'année qui vient soit plus agréable à ses yeux que celle qui est passée, pour que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance et tout ça. Si vous faites ça, vous allez atteindre d'autres niveaux de repentance. Et je l'ai vu et je l'ai senti chez des membres. Tout nous vient de lui. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, s'il vous plaît. Tout nous vient de lui. Je dirais, il faut s'humilier sous sa puissante main, mais s'humilier avec joie, pas en étant abattu. C'est simplement en reconnaissant qu'on est incapable. C'est comme un petit enfant qui n'est pas capable de réparer sa bicyclette, puis qui vient avec les morceaux à son père, puis il dit, je ne suis pas capable. Mais le père ne le chicane pas. Non, tu n'es pas capable. Moi, je suis capable, je vais te la réparer. Je vais t'aider, je vais te montrer, puis peut-être en même temps, je vais te montrer comment la réparer une autre fois si ça se produit, si c'est à ton niveau de le faire. Alors, Dieu fait la même chose avec nous. Dieu travaille en ce moment avec un soin affectueux et méticuleux avec chacun de ses appelés. 2 Pierre 3, Et on va commencer à lire au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Et plus on voit les événements dans le monde se précipiter, plus on voit que c'est proche. Et plus on voit que l'Église aussi accomplit un travail majeur, plus on sait que c'est proche. Et certaines personnes se permettent de prendre leur temps, je dirais, pour vivre la fête des pains sans levain. On a encore beaucoup de temps pour changer. On a encore beaucoup de temps pour changer. Vous savez, il y a peut-être des gens, je lance l'idée comme ça, il n'y a rien dans la Bible qui l'indique, mais il y a peut-être des gens, quand Noé a bâti l'arche, qui ont pensé que ça pouvait être vrai, puis qui ont dit, bien, je vais attendre encore un peu. Je vais attendre encore un peu, puis j'irai quand ça sera le temps. Mais à un moment donné, ça a été marqué que la porte de l'arche était fermée. À un certain moment donné, ça s'est fermé, c'était terminé. Et il était trop tard après. Mais il use de patience envers vous. C'est vrai envers moi, en tout cas. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela, verset 11, est en voie de dissolution, que tout va changer bientôt, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Voilà notre Pâques et notre fête des pains sans levain. Verset 13, « Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, regardez, on a des choses à faire, et ça presse de les faire, parce que c'est le temps qu'on a maintenant. « Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche, irréprochable, dans la paix. » À être trouvé sans tâche, irréprochable, dans la paix. Ça veut dire avoir une attitude parfaite de repentance. Même si on n'est pas capable de tout faire parfaitement, si on a une attitude de repentance comme Dieu veut, Dieu va nous laver à mesure et va nous fortifier à mesure que les événements vont se passer. Il faut qu'on soit vraiment lumière dans le monde. Chacun des baptisés a besoin de prendre la Pâque. Chacun des baptisés a besoin de prendre la Pâque. On n'est pas digne de prendre la Pâque, mais il faut la prendre dignement. Avec un cœur, comme je vous dis, qui est décidé à se repentir encore, qui n'a pas été parfait au cours de l'année, qui veut faire mieux au cours de l'année qui vient. Et Dieu veut rappeler ses enfants le soir de la Pâque à travers le monde, au même moment, à mesure que le soleil va se coucher sur la planète. Ses petits-enfants vont se réunir pour manger le pain, boire le vin, procéder au lavement des pieds, comme il nous en donne la directive. Mais là, à ce moment-là, on pourra le faire le cœur léger, joyeux, heureux, reconnaissant que Dieu travaille encore avec nous et qu'il veuille nous amener plus loin au cours de l'année qui s'en vient. On a besoin de prendre la Pâque, de la prendre humblement, avec une profonde reconnaissance et avec beaucoup, beaucoup de joie, dans une attitude de repentance, en étant ouvert avec Dieu. Comme je dis, avec un cœur loyal qui désire continuer le combat. Peut-être que je vais dire à Dieu misérable que je suis, parce que je n'ai pas atteint les niveaux que j'aurais dû atteindre, comme Paul l'a mentionné. Mais grâce à Jésus, je vais y arriver, puis je vais te le demander cette année encore, puis je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas donné la victoire. D'ailleurs, je ne te laisserai jamais, parce que je vais être toujours avec toi, je vais être dans ton royaume, et je veux servir éternellement. Et c'est ça, vive la Pâque et les pains sans levain de tout cœur. Allons pour un dernier verset, s'il vous plaît, à Hébreux, chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, et on va commencer à lire au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, le Créateur de toutes choses, une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est quelque chose, ça. Quand Dieu dit à chacun de ses baptisés ici, là, par le sang de Christ qui vous a lavé au baptême et qui vous a lavé au cours de l'année de vos faiblesses, vous avez accès dans le sanctuaire, dans les lieux élevés, là où est le trône de Dieu. Les autres êtres humains, pour le moment, n'ont pas encore cet accès. Ça va arriver parce que Dieu est juste. Mais pour le moment, nous avons cet accès dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quand il a, et vous savez, quand il a donné sa vie sur la croix, quand il est mort, au moment où il est mort, le voile du temple, le grand voile très épais, s'est déchiré du haut vers le bas. Ce n'est pas des êtres humains qui l'ont déchiré. Et ça signifiait que la porte était désormais ouverte pour donner accès aux êtres humains au trône de miséricorde de Dieu. Il dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est le Christ. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, en disant à Dieu, je veux faire ce que j'ai à faire, je veux faire ma part, aide-moi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et on n'a pas à se sentir coupable quand on est ouvert devant Dieu et qu'on lui manifeste nos regrets d'avoir manqué notre coup et qu'on lui demande de nous montrer les fautes qu'on a encore à voir, qu'on n'a pas vues. On n'a pas à se sentir malheureux de ça, au contraire, à être reconnaissant envers Dieu qui travaille avec nous de cette façon-là. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et, ça, et le fait de reprendre la Pâque cette année, pour certains, ça va être la première fois parce qu'ils sont nouvellement baptisés, le fait de reprendre la Pâque, renouveler l'engagement, entrer dans la semaine des pains sans levain avec la reconnaissance envers Dieu, avec joie, avec détermination, ça va nous aider à retenir fermement. Ça fait partie de ça. C'est un exercice que Dieu nous donne de faire chaque année pour nous renforcer. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Formidable. On peut compter sur lui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et j'imagine facilement notre Père dans la salle de son trône magnifique en haut qui voit ses enfants s'encourager les uns les autres et les nouvelles personnes qui sont avec nous aussi encourager les autres puis être encouragés par les autres. Et il voit toute cette dynamique de ceux qu'il appelle maintenant. Pour lui, c'est l'accomplissement de son plan. Parce qu'il dit, ces gens-là, bientôt, je vais les transformer complètement en êtres spirituels glorieux. Et ils seront capables d'être parfaits. Ils auront atteint la perfection. Et ils seront capables, je vais être capable de compter sur eux. Jamais ils ne se détourneront de moi. Ils vont faire ma volonté éternellement à ce moment-là. Alors, voyez-vous, tant et aussi longtemps qu'on s'applique à faire ce que Dieu demande, on peut avoir l'assurance, je dis bien, on peut avoir l'assurance d'atteindre le but. C'est-à-dire d'entrer dans le royaume, d'avoir la vie éternelle. Si nous n'abandonnons pas, mais que nous persévérons, Dieu va terminer en nous l'œuvre de transformation qu'il a commandée, et qu'il a commencé. C'est une promesse qu'il a faite, qu'il va terminer en nous l'œuvre qu'il a commencée. Si nous n'abandonnons pas, et à ce moment-là, il va nous mener jusqu'à la gloire dans son royaume éternel.